vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nous voilà nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui dans cette émission du vendredi 20 février 2026, nous vous diffusons une partie des prises de parole qui ont été enregistrées le 4 février 2026 dernier lors de la réunion publique qui avait lieu à la Flèche d'Or dans le 20e arrondissement de Paris concernant l'affaire de Safiatou, Salif et Ilan. En effet, dans la nuit du 13 avril 2023, le City Scoot sur lequel se trouvaient ces trois enfants a été percuté volontairement par un véhicule de police dans le 20e arrondissement de Paris, provoquant leur violente chute. Les trois adolescents survivants et leurs familles souffrent encore aujourd'hui de multiples et sévères séquelles. Et c'est donc après plusieurs mois de silence liés à la procédure judiciaire qu'une nouvelle étape s'ouvre, c'est-à-dire que la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel et la requalification des faits impose à la famille de faire appel de cette décision. Cette réunion publique visait donc à informer sur la situation, à répondre aux questions et à lancer un appel de solidarité pour faire face aux frais de justice et de santé globalement. On va donc vous laisser écouter ces différentes prises de parole et cela pendant l'ensemble de l'émission, en n'oubliant pas de vous rappeler que c'est donc demain qu'a lieu une manifestation à 14h au départ de Barbès-Rochechouart, justement pour demander la vérité et la justice pour toutes et toutes quant aux différents cas de violence policière avéré dans le 20e arrondissement de Paris et notamment dans l'affaire de El Hassen Diarra. Sur ce, bonne écoute.
On est rejoint ce soir par la famille d'El Hassen Diarra, qui est mort dans le commissariat du 20e en janvier 2026, donc il y a quelques semaines. Ensuite, on parlera avec Amanda Chachoua, mère d'Ilan, et qui porte aussi la voix et la parole de Safiatou et de Salif. Et son avocat. Et du coup, on finira avec Fatou Dieng, la sœur de Lamine Dieng, tuée par les policiers du 20e en juin 2007. Donc, ces trois affaires ont eu lieu dans le 20e arrondissement, impliquent le commissariat du 20e arrondissement. à 20 ans d'intervalle. Donc d'abord, je vais donner la parole à la famille d'Alassane Diarra, qui pourront vous donner les nouvelles et les actualités sur la lutte qu'ils mènent depuis quelques semaines.
Bonsoir tout le monde. Je me présente, moi, Cécile Brahman, déléguée du foyer Mérier. Je suis à côté de M. Diarra, le grand frère de M. Alassane. Merci, Amanda, de nous inviter ici, de parler un peu sur la situation. Bon, Alassane vivait avec nous au foyer. Alassane est gentil, il ne dérange personne dans le foyer. Chaque fois qu'il a envie de prendre son café, il se sert dans leur chambre, il se rend aux escaliers du foyer. S'il a envie de fumer, chaque fois il descend en bas du foyer, il va à la petite ruelle avec son café et la cigarette. La police du commissariat des 20e, pour ne pas dire qu'ils n'ont jamais vu Alassane dans ce coin. À ces jours, il était le soir du 14 janvier au 15 janvier, vers aux alentours de 21h-22h, après finir faire son thé, à servir ses frères, il a pris sa poubelle, allait mettre aux ordures de ménage dehors, et s'est continué avec son café et la cigarette, l'endroit qu'ils l'ont tué. La police l'a trouvé, contrôlé. J'espère que ça a mal passé entre eux jusqu'à ils l'ont tranglé. Deux ou trois personnes qui se jettent sur une personne depuis qu'il est en train de dire « vous me tranglez » jusqu'à la voix est cassée. Bon, ça se trouvait qu'on a des bons témoins qui ont filmé. Tout le monde a vu les images. Donc on demande la justice soit faite avec une bonne condition, que ce soit clair. Et il y a une cagnotte qui est en ligne pour Alassane et les autres, comme la fille d'Amanda et les deux autres aussi. Alors il faut qu'on les aide d'alimenter les cagnottes. Voilà, à un moment donné, moi ça me parle dans la tête, est-ce qu'on ne va pas faire une réunion avec le commissariat de 20e? Pourquoi dans notre quartier, il gère mal, il agresse les gens? Même là, hier, je les ai vus avec leur bagnole et ceinturés de leur, je ne sais pas quoi, qui circulent dans le quartier à la banane, là-bas. Tout ça, il faut qu'on conteste. Il ne faut pas qu'on reste bras croisés. Voilà, donc, c'est ça que j'ai à dire à tout le monde. Et nos associations du quartier aussi, merci beaucoup au travail qu'on fait. Mais j'aimerais que chaque association, on va avoir dans le mois, même un jour, même si ça sera deux personnes par association, on se réunit et les syndicats, on va en parler et tout ce qu'on devait faire. Et s'il s'agit d'un grand rassemblement, on fait ça aussi. Justice pour Alassane. Bon, je vais passer la parole à Alfred. Et oui, salut à tout le monde. On est content que vous nous ayez invités ici, Amanda, et tout le monde qui soit là. Ceux qui connaissent sur Alassane, il ne dérange personne. Même eux dans leur chambre, c'est lui qui fait la cuisine, c'est Alassane qui fait les vaisselles, comme chez nous en Afrique. Il y a des tasses, c'est le grand frère qui fait. Il y a des choses aussi, c'est le petit frère qui fait, même l'envoyer dans les magasins, etc. C'est le petit frère qui charge ça. À part ça, la nuit du 14-15, Hassan a servi du thé à tout le monde. Il a fait son vaisselle du thé. Il a fait son café descendre en bas. En ce moment, lui, il était dans la chambre. Après le match, il est descendu. Voilà, après qu'il est descendu, il a entendu que la police a arrêté Hassan. Lui, il ne peut pas y aller parce que lui, il ne peut pas y aller. Il n'a pas de papier. Il ne peut pas présenter au commissariat. Il n'a pas de papier. Il a contacté son tonton à Grigny. sont partis à la commissariat. C'était le matin du 15. À part ça, quand ils sont rendus au commissariat de Gambetta, ils ont refusé de donner des informations. C'est en ce moment-là que le commissariat de Gambetta on a accompagné jusqu'à l'IGPN du Paris 12e. Arrivé là-bas, c'est eux qui ont annoncé que Hassan est décédé. Ce qu'ils demandent à tout le monde, on soit unis, on fait le même combat. Tout ce qui est là, qui a subi des victimes, on soit unis, on se bat un seul combat, sur que la justice sera justice pour Alassane.
Justice pour Alassane.
Merci. Donc, on va parler avec Amanda, du coup, et Mathieu Quincasse. Donc, Amanda, tu es la mère d'Ilan. Tu portes aussi ce soir la parole de Safiatou et de Salif. Donc, ce soir, en avril 2023, donc, les trois enfants voyageaient, se déplaçaient en scooter lorsque leur scooter a été percuté par une voiture de police à la suite d'une course-poursuite à rue des Pyrénées. Donc aujourd'hui, c'est 3 ans plus tard. Il y a une nouvelle étape judiciaire qui s'ouvre. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on vous demande aussi soutien. Il y a une cagnotte à laquelle vous pouvez participer. Il y a des QR codes qui sont affichés un peu partout dans la salle. Donc n'hésitez pas. Donc Amanda, est-ce que tu peux nous resituer un peu? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, en avril 2023?
Bonsoir et merci à tous d'être si nombreux présents pour ces 3 enfants. Le 13 avril, on rentre du foot, c'est le ramadan, on dîne. Salif, qui est un camarade de classe, invite Ilan à aller à se rendre à la mosquée. C'est un moment assez festif et joyeux. Et je suis assez rassurée parce que c'est Safiatou, la grande sœur de Salif, qui se charge d'être responsable d'eux. Je m'inquiète à partir de 23h30, c'est sa première sortie. Et je n'arrête pas d'appeler.
Et donc, pas de réponse. Et tu reçois un appel de la protection civile avec le téléphone de Ilan. On te donne quoi comme information?
Oui, je vois mon fils me rappeler, donc je réponds tout de suite. Et là, c'est un monsieur qui me donne les infos. Et j'entends surtout un policier crier « Non, non, n'appelez pas les parents. Je vous ai dit de pas appeler les parents. » Et donc, je comprends que mon fils est blessé, qu'on va l'amener, mais c'est rien de grave, il a juste glissé sur un poteau. On l'amène à Robert Debré, on vous rappellera. Et heureusement, et je remercie la protection civique pour ça, parce qu'ils ont gardé le téléphone de mon fils et ils m'ont envoyé un texto en me disant d'aller à Trousseau, qu'on m'avait indiqué un mauvais hôpital. Il faut dire qu'il est à cette heure-ci minuit 45. J'arrive à l'hôpital et j'arrive en même temps qu'eux. Et je vois mon fils entouré de 4 policiers de la BAC qui tout de suite se rendent compte que je suis le parent et qui vont m'interdire de rentrer, m'interdire de leur parler, de parler à mon fils. S'ensuit une espèce d'énorme pression, une atmosphère terrible, opaque, où on me demande de rentrer chez moi. Je lui dirai, je vois encore ses yeux bleus. Je dis, mais qui rentre chez lui alors que son enfant est blessé? Le médecin insistera après, finira par lui dire, j'ai vraiment besoin d'elle, donc arrêtez. Mais on ne me laisse pas tout seul avec le médecin. Je n'ai aucune intimité. Je ne peux pas parler des antécédents de mon fils sans la présence du policier vraiment à côté. Et puis tout au long de ce moment, pendant 3-4 heures, en fait, on va me garder. En fait, on va m'isoler. On va faire en sorte que je n'appelle pas, que je sois toute seule. Et eux, par contre, je les vois au téléphone. Et d'un coup, le médecin revient me voir en me disant « Écoutez, il y a des suspicions de fracture, donc on va devoir le garder plus longtemps. Il est à peu près 4h30 du matin. J'attends. Ilan est un footeux. À cette époque-là, il joue, il représente l'Île-de-France et il est sélectionné à l'équipe de Paris. Donc qu'il soit blessé, qu'il y ait des fractures, ça, en tant que maman, bien évidemment, c'est un frein dans son avenir. Et donc, je m'en inquiète, mais 5 minutes après, même pas, tout le monde commence à s'exciter partout. Je ne vois toujours pas mon fils, mais on me dit non, mais finalement, il n'y a plus rien, donc je l'autorise à aller en garde à vue. Et là, je vois mon fils me noter, être dans une voiture, et puis on me forcera à rentrer dans une voiture aussi. On me raccompagnera jusqu'à ma porte en me disant de bien rester à la maison. On me fera rouler à 80 à l'heure, en fait, alors que je dis que j'ai peur, mais il n'y a pas un bruit dans la voiture, ils sont trois. Et voilà, et j'arrive à la maison, et après, j'essaye de trouver un avocat, d'essayer de savoir qu'a fait mon fils, en quoi je suis une mauvaise mère, etc., etc., alors que j'ai rien manqué de sa vie.
Donc, Ilan, il est placé en garde à vue au commissariat et non pas à l'hôpital, malgré le fait qu'il est en fait assez gravement blessé. Comment se déroule cette garde à vue? Qu'est-ce qui se passe?
Il est déshabillé, il est fouillé, ses empreintes sont prises, son ADN, il est privé de liberté, il hurle de douleur. Parce qu'à l'hôpital, c'était sympa, il y avait le protoxyde d'azote. Il est baladé d'un commissariat à un autre, donc je le cherche un peu partout. Et vers 17h30, on arrive à avoir, donc avec l'avocate, on arrive à avoir... En fait, elle rentre. Moi, je n'ai pas le droit de rentrer au commissariat. Vraiment, c'est interdit pour moi de rentrer. Je dois laisser mon fils, qui vient d'avoir 14 ans, tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Et puis là, d'un coup, je reçois un texto de mon avocate qui me dira « Amanda, rentre vite, viens. » Parce qu'il semblerait que l'interpellation a été fortement musclée et qu'il n'y a pas... Enfin, ils ont éteint... Enfin, apparemment, les caméras ne fonctionnaient pas.
Parce que du coup, à ce moment-là, toi, tu penses encore que ton fils, il était seul sur le scooter.
C'est ce qu'on m'a dit. Toute la nuit, toute la journée, en fait, mon fils est seul sur un scooter. Et pour éviter la police, il aurait slalomé autour d'un poteau. Rien de grave, rien de grave, rien de grave.
Et du coup, quand est-ce que tu découvres et comment est-ce que tu découvres qu'en fait, il n'était pas du tout seul, il était avec ses amis, ils étaient trois sur un scooter et que du coup... Ses deux amis sont eux aussi blessés et sont en fait toujours à l'hôpital.
Je l'apprendrai de la bouche de mon fils. En gros, Ilan ne veut pas sortir du commissariat, ce que je trouve très bizarre, et veut porter plainte contre la police. Donc à ce moment-là, il rassure un peu l'avocate, il fait un espèce de micmac en disant « Non mais c'est bon, il sera entendu, il sera entendu ». Et donc, sa mère pourra venir. Sauf que quand je rentre, là, on m'oblige à ne pas rester. On me dit non, vous n'avez pas le droit d'entendre, vous n'avez pas le droit d'entendre. Et surtout, Ilan a eu une posture assez incroyable. En fait, il a une meilleure posture que moi. Parce qu'il les a regardés, il leur a dit, en gros, c'est soit elle reste, soit on s'en va. Sauf que j'apprendrai plus tard que c'est le service des accidents de la route, en fait, qui sont en train de mener une enquête et qui sont là depuis la veille au soir en train d'essayer de mettre donc, les témoins à droite à gauche dans tout Paris. Et donc, j'apprends par des questions techniques, en fait, je comprends qu'il y a un accident et je comprends que Safia Tou et Salif font partie du même accident et qu'en fait, c'était bien plus grave que ce qu'on m'avait... annoncé. Et à ce moment-là, je dis simplement, mais je porte plainte contre tout le monde, parce que nous, en fait, on pensait que c'était une plainte. C'était absolument pas ça. C'était l'enquête qui continuait. On me répondra qu'il faudra que je comprenne le collègue, parce qu'il existe des terroristes de 12 ans. Je passe les blagues sexistes auxquels on a dû et racistes, notamment sur le fait qu'on fasse ou pas le ramadan. Je me demande où en est la laïcité à ce moment-là, mais je n'ai pas le droit de parler. Je signe un document, mais je dis « mais ce n'est pas une plainte ». Et on me dit « oui, vous inquiétez pas, on vous rappellera ». Et quand je sors avec Ilan, en fait, il me tombe dans les bras. Je vois bien qu'il ne peut pas marcher. Et s'ensuit, en fait, où, heureusement, il avait donné son téléphone au témoin, que je remercie infiniment. parce que sans eux, je me rends compte qu'en fait, ils avaient filmé, ils ont envoyé, ils étaient en train de nous chercher, en fait. Donc, ils ont envoyé sur les réseaux sociaux des vidéos, ils ont dit sur les groupes du 20e qu'on cherchait les parents de Ilan, Salif et Safiatou. Et en fait, s'ensuit plein de... Enfin, déjà, tu découvres une autre histoire. Tu t'inquiètes surtout pour les deux autres enfants parce qu'ils sont à l'hôpital et j'apprendrai donc que Safiatou est plongé dans le coma. Voilà, c'est des chocs après d'autres chocs, en fait. Et les témoins qui heureusement, m'expliquent et me racontent ce qu'eux ont vécu.
Et du coup, toi, tu as déposé plainte?
On est retourné lundi suivant à l'IGPN, parce que l'IGPN ne s'était pas saisi du dossier. Il aura fallu, je crois, une dizaine de jours pour qu'il se saisisse. Mais c'est très courant, hein, je raconte ça, mais c'est vraiment courant à toutes les affaires. Hein. Mais donc, on y va, et puis, en fait, ils me mettent la pression, on va aux UMJ, et donc après, c'est aux UMJ que je comprendrai que mon fils n'a pas été soigné. Qu'il a plusieurs fractures avec des œdèmes, des plaies qui se sont infectées. Il doit se faire opérer de la mâchoire parce qu'il a un kyste. Enfin, mais en fait, je suis simplement toute seule.
Mais du coup, l'IGPN se saisit de la plainte. Une enquête est ouverte. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été les différentes étapes que vous avez parcouru dans le cadre de cette enquête, du coup, qui a duré 3 ans?
Alors, l'enquête de l'IGPN a duré bien moins longtemps que ça. En gros, ce qu'on apprendra, en fait, d'après l'enquête, c'est que les policiers... En fait, la course-poursuite aurait duré 2 minutes. Les enfants ont juste... En fait, ils avaient une heure pour rentrer, simplement. Il n'y avait pas de bus... voilà, ils ont 13, 14 et 17 ans. Ils se disent flemme de rentrer. Excusez-moi, je vais utiliser leur langage. De rentrer à pied. Et en fait, ils vont prendre ce city scoot. Ils vont louer ce city scoot. Et vont se dire, on est en 5 minutes, on est à la maison. Et tout de suite, en fait, en sortant de la mosquée, ils sont bien identifiés. Et ils vont être pourchassés par la police. J'apprendrai donc que la chef de bord a pointé une arme sur les enfants, que le passager, un autre policier, donc, a ouvert sa portière et que le conducteur a ce qu'on appelle un pare-chocage, a utilisé donc la voiture pour foncer sur les enfants, alors que mon fils ne portait pas de casque. À plus de 25 km/h, pour moi, c'est qu'on veut les tuer. Il y avait énormément d'autres moyens, si on est formé ou si on est un peu intelligent et pas en réaction à une émotion, de les poursuivre. Le city scoot, il y a un matricule. Enfin, il y a énormément de façons de le faire. J'apprendrai également que à la radio, la hiérarchie aurait demandé de stopper la course poursuite. Ils n'obéiront pas. Ils choisiront de continuer. Et même l'angle à laquelle auquel a lieu l'accident est limite bien choisi, en fait. Je verrai ensuite que sur les vidéos, parce que la version des policiers, c'est ça fait à tout, conduisait mal. Elle a guidonné et donc c'est elle qui est tombée toute seule. J'ai visionné les caméras de la ville. Elle conduisait très bien. Elle était droite. Je pense qu'elle voulait juste faire en sorte qu'Ilan et Salif, enfin, ils étaient en quatrième. Elle voulait prendre la responsabilité pour elle. Elle s'est dit, bah, au pire, si je fais une garde à vue, c'est pas grave, mais au moins les enfants sont à la maison avec leurs parents, en sécurité. Et en fait, les policiers n'ont simplement pas eu d'égard pour ces petits corps. Mon fils atterrira, d'après les vidéos, dans le restaurant à 3 mètres plus loin. Il se réveillera et il verra pendant 1h30 les enfants... Et les policiers, surtout, s'affairaient à donner des coups de fil, à déplacer les corps. On bouscule Safiatou, on lui jette le pied sur son corps, on décasque les enfants, on manipule. Donc, honnêtement, je ne sais pas à quel moment, que ce soit les policiers de la BAC ou la police municipale, lequel est plus engagé? Est-ce que c'est le conducteur? Est-ce qu'au contraire, on n'aurait pas mieux fait d'appeler les secours au plus vite et de les amener? Safia Tous se retrouve presque 2 mois dans le coma. Elle subira diverses opérations très lourdes. Elle a la colonne vertébrale brisée. Elle vit aujourd'hui avec la moitié d'un intestin. Et ça, c'est pour toute la vie. Salif a une hémorragie du foie, plusieurs fractures au niveau des jambes.
Et du coup, les trois donc, sont trop blessés pour retourner à l'école. Est-ce que tu peux un peu nous parler des impacts pour les enfants, mais aussi des familles, donc de toi, et quels sont les moyens que vous avez dû mettre en avant pour gérer en fait, cette situation par la suite?
Il faut comprendre que moi, mon sujet a toujours été les enfants, la protection des enfants, le droit à leur éducation. Pour moi, c'est l'avenir. Tout de suite, je remplace l'école, je remplace les thérapeutes. Je suis obligée, donc mon fils ratera l'école pendant 1 an. Safia Tous ratera le bac. Et donc, je m'implique, je m'investis. On a eu le bac et on a eu le brevet, sans contrôle continu. Je ne peux plus travailler comme avant. C'est évident, ma vie a totalement changé. J'ai des convictions et on est venu les bousculer sans s'excuser, sans avoir d'égard pour des enfants, mais aussi pour une maman solo. C'est des frais, c'est beaucoup de frais. On doit avoir... On a des donc Ilan aujourd'hui est reconnu handicapé par la MDPH. Safia Tous est en cours. Tout s'arrête et en même temps, tout doit continuer. On est tout de suite pris par la médiatisation. C'est la première fois, et je tiens à le redire, que le ministre de l'Intérieur a dit que les policiers auraient mal agi. Et donc, j'attends encore... Il y a surtout, et ça je veux le préciser, et qui arrive dans beaucoup d'affaires, dans, si ce n'est pas la plus grande partie des affaires, c'est la criminalisation. Ces enfants sont tout de suite criminalisés, donc il y a des poursuites qui vont durer jusqu'en juillet 2024 pour refus d'obtempérer. Ils sont censés être solidaires de leur refus d'obtempérer. Et pourtant, je ne comprends toujours pas pourquoi les policiers, eux, ne le sont pas.
C'est pas de la fiction, c'est pas de la télé, c'est la réalité. Juste un peu de douceur dans un monde de brutes. J'ai rêvé de caresses et j'ai reçu des uppercuts. Soyons clairs et nets. La police nationale, au lieu de préserver la paix sur moi, a bâclé son travail. Je quittais le concert d'A.S. Dragon et nous allions avec ma miss, les qui parlait de mix et de son. Bref, la soirée fut bonne. Mais dans ma rue, un contrôle de routine quelque peu farfelu. J'ai peut-être une trop belle voiture, parce que quand je suis sorti, ils ont pensé elle est volée, c'est sûr. Sans même demander l'assurance ou les papiers du véhicule, ils m'ont crié dégage, me noté ridicule. Un fonctionnaire a tenté de me balayer, puis seul, il est tombé, énervé, peut-être humilié. J'ai vu la fourgonnette, le poste, la garde à vue, la plainte de la police, des procès-verbaux factices. Genre, j'avais pas de phare, voyons, pas de clignotant, bien sûr. Une allure suspecte, on roulait trop lentement. Ouais. À l'heure où j'écris, il me reste des cicatrices, au dos, au cou, au tibia, à la main, à la cuisse. Puis, l'inspection générale des services, l'IGS. Prends mon témoignage, la justice fera le reste. A-t-on le droit de falsifier quand on est assermenté? Et ensuite demander que l'uniforme soit respecté. Ils portent des casquettes comme les mecs ils arrêtent. Mettent des coups de pression comme les mecs ils arrêtent. Mentent et sont armés comme les mecs ils arrêtent. Ils volent au-dessus des lois comme les mecs ils arrêtent. Les témoins de la scène étaient outrés. Mais des histoires similaires, j'en ai des dizaines à te raconter. Fond du cœur, peace. Aux orphelins de la police, ainsi qu'à ceux qui entendront ce chant anecdotique. Je ne donne pas tous les détails, je souhaite la concorde. MC Solar, un beat, une voix, des cordes. Un soupir, bien souvent d'un souvenir. Un soupir, bien souvent d'un souvenir. Un soupir, bien souvent d'un souvenir. Souvent d'un souvenir.
Et vous êtes toujours dans l'actualité des luttes, et ce jusqu'à 13h30 sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et on continue donc de vous diffuser le montage des prises de parole réalisées le 4 février 2026 à la Flèche d'Or, lors de la réunion publique d'information concernant l'affaire de Safiatou, Ilan et Salif, violemment percutés par la police en avril 2023.
Peut-être on en vient à où on en est aujourd'hui. La juge a rendu son ordonnance le 30 décembre 2025. Donc il y aura un procès contre le conducteur de la voiture de police. On pourrait voir ça comme une victoire. Toi, tu ne le vois pas comme ça. Est-ce que tu peux nous dire vite fait pourquoi? Et après, on parlera avec Mathieu qui pourra nous expliquer les prochaines étapes. Qu'est-ce qui se passe maintenant?
Alors déjà, l'instruction est... Attention, alors tout le monde va me dire relativement courte dans notre affaire, mais pour moi, je trouve que c'est extrêmement long, sachant que la seule chose qui a été faite, finalement, c'est nos auditions et les expertises. En 2 ans et demi, on a eu des expertises qui sont manipulées. On passe une demi-heure à raconter, encore une fois, le PV des policiers, que je rappelle que les deux autres collègues n'ont pas signé quand même. Donc à 5h du matin, vous saviez qu'il y avait un souci, mais vous avez décidé quand même d'enfermer, de priver de liberté un enfant de 14 ans qui venait de subir une tentative d'assassinat. Mais pourtant, cette instruction va laisser planer d'abord et avant tout la version des policiers, ce qui est un notre traumatisme, parce qu'après, il faut s'en sortir les semaines qui se poursuivent, parce qu'on réentend la parole de l'agresseur. En tant que victime, c'est horrible. On n'est ni entendu, ni écouté, on n'est pas respecté. C'est assez pénible à faire comprendre, encore une fois, à des enfants qui ont 14, 15 ans. Donc voilà, 2 ans et demi après, le 30 décembre, et je suis désolée, j'ai pas choisi des dates. Voilà, je ne pouvais pas savoir pour LSN, paix à son âme. Et pour tous les autres, parce qu'il y en a eu d'autres. Donc, en fait, je peux pas être seule dans cette bataille. Ça, c'est certain. On peut pas être seule, on peut pas laisser ses enfants seuls, ils nous regardent. Et donc, cette instruction se termine. Ce que je comprends, c'est que l'ordonnance copie littéralement l'ordonnance du procureur. Je ne peux pas être contente d'une requalification des faits. Donc, il y a 2 choses qui me surprennent. Et puis, en plus, ils l'écrivent, donc c'est assez particulier de pouvoir lire. C'est-à-dire qu'on reconnaît le faux en écriture publique. Mais par contre, on ne va pas au pénal, on préfère l'amoindrir pour des questions de délai. Alors que, bon.
Et juste, le faux en écriture publique, c'est le PV du policier.
Oui, qui n'a pas été signé par les deux autres. Et puis, encore une fois, les poursuites uniquement sur le conducteur, alors que nous-mêmes, moi toute seule, j'ai été... Ilan a été agressé, on le voit bien dans les vidéos. Il y a quand même 2 hommes qui se mettent, qui font un plaquage ventral sur un enfant de 14 ans qui venait de subir le même accident que les autres. La vidéo où je l'entends crier, je ne l'ai jamais entendu crier comme ça. On vous force à vous, alors que vous ne pouvez pas. C'est assez spécial parce que ni il court, ni il fait quoi que ce soit. En fait, il est là, donc il n'y a pas de raison. Il est là depuis 5 minutes, il n'est pas parti. Mais pourtant, on va continuer de le violenter, notamment aussi au commissariat. On ne va pas lui prodiguer les soins nécessaires. Et au contraire, il a beau hurler pour dire « j'ai mal », en fait, j'ai vraiment mal. Et personne ne fait quoi que ce soit. Au contraire, il est juste déplacé d'un commissariat à un autre.
Donc, vous faites appel avec votre avocat, Mathieu. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez et quelles sont les prochaines étapes à parcourir?
Bonsoir. Alors effectivement, on a fait appel de cette ordonnance. C'est à peu près le seul droit qui nous restait à la fin de cette procédure. Moi, j'accompagne Amanda et Ilan depuis quelques mois tout juste. le cours de l'instruction était déjà bien avancé, les investigations étaient faites, et finalement, on attendait juste cette décision de la juge. C'est une décision donc, qu'on conteste pour plusieurs choses. D'abord parce qu'ils étaient trois dans la voiture, et il n'y a qu'une seule personne qui est poursuivie. Comme l'a dit Amanda, on fait peser une solidarité sur les passagers du scooter, mais on accepte que dans la police et dans cette voiture de police, il n'y ait pas de solidarité qui tienne. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement la question de la qualification. Ce fonctionnaire de police est poursuivi pour des violences volontaires. C'est la première infraction. Et la deuxième, c'est pour le faux. Les violences, elles sont aggravées par sa qualité de fonctionnaire de police, de dépositaire de l'autorité publique. Le faux devrait être aggravé par la circonstance de sa qualité de fonctionnaire de police et donc devrait le faire comparaître devant une juridiction criminelle. Parce que c'est un crime au sens de la loi. Donc c'est l'une des infractions les plus graves que le droit français connaisse, qu'un fonctionnaire de police, qu'un dépositaire de l'autorité publique écrive un faux. Et le faux, il peut avoir plusieurs formes. Ça peut être ce qu'on appelle un faux matériel, je change la date, je prends la signature de quelqu'un, etc. Ou un faux intellectuel, donc je change la réalité des faits qui sont décrits. Et c'est ça qu'on lui reproche principalement, parce qu'on lui reproche d'avoir donné volontairement un coup de volant, mais on lui reproche aussi, dans le procès-verbal, d'avoir dit non, pas du tout, ils se sont pris un poteau par eux-mêmes. Et moi, j'y suis pour rien, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Et donc ça, on le conteste, parce que ce qui lui est reproché, c'est d'avoir... altérer la vérité, mais en fait, c'est exactement ce que fait la juge aussi. Elle altère la vérité. Elle ne reconnaît pas entièrement les faits tels qu'ils sont. Et donc, le chemin qu'on emprunte avec Amanda et Ilan maintenant, c'est effectivement de demander à la cour d'appel de renvoyer ce fonctionnaire de police devant une cour criminelle départementale. C'est l'équivalent de la cour d'assises, les jurés en moins.
Et du coup, donc là, ça fait 3 ans que les familles attendent cette décision. Qu'est-ce qui a été fait pendant ces 3 ans ? Il y a un dossier,
C'est une vraie question. Et effectivement, on peut se demander si c'est long ou si c'est court. En réalité, si les gens dans la voiture n'avaient pas été fonctionnaires de police, le chauffeur, il serait passé en comparution immédiate. Hein. L'enquête, elle aurait été torchée en 12 heures. Alors, ça n'aurait pas été plus satisfaisant. Hein. Je ne vais pas faire ici la promotion de la comparution immédiate, mais on aurait pu faire autrement et on aurait pu faire plus rapide. Pendant ces 3 ans, il s'est passé beaucoup d'attentes, en réalité. De l'attente qui a permis aux fonctionnaires de police de s'organiser entre eux. Et on le voit dans le dossier, il y a des notes dans le téléphone portable de ce policier où il esquisse, quelques jours après, sa défense, les questions qu'il se pose, les arguments qu'il pourrait mettre en avant. Il y a des photos de la procédure qui sont dans son téléphone, à des dates qui interrogent et qui nécessairement feront débat à l'audience et il sera interrogé sur ces dates. Moi, en tant qu'avocat, je sais précisément pourquoi, à ce moment-là, il fixe sa ligne de défense. Et il le sait aussi et il dira. C'est qu'en fait, il cherche à cacher la réalité des faits. De nouveau, il cherche à cacher sa culpabilité. Et donc, tout ce temps, ça a été un temps d'enquête, beaucoup de vide, en réalité, sur ces 3 années, des temps... parfois incompressible parce que la loi prévoit que les personnes doivent avoir un certain délai pour présenter leur défense, etc. Mais c'est aussi beaucoup de vide. Et ils auraient pu faire plus vite. Ils ont décidé de ne pas le faire. Et maintenant, effectivement, ils viennent dire bah, on va le renvoyer devant le tribunal correctionnel et pas devant une juridiction criminelle pour que ça ne traîne pas plus. Mais c'est trop facile, en réalité, comme argument. Et Amanda le dit souvent, en fait, nous, ça nous a marqué à vie. Et donc, bah, on a toute la vie pour obtenir la justice que la police doit nous rendre précisément dans cette affaire-là. Donc, ça va encore prendre du temps parce qu'il va falloir que ce dossier arrive devant la chambre de l'instruction, donc ce qui est la chambre spécialisée pour les affaires d'instruction. Et ça va prendre du temps parce que, bah, évidemment, dans tout le lot de dossiers, ça ne va pas être leur priorité. Donc, je ne sais même pas si on aura une audience cette année, peut-être l'année prochaine. Et ensuite, bah, il faudra du temps pour que ça arrive effectivement devant une juridiction de jugement et une cour criminelle départementale, parce qu'ils n'auront pas le choix de toute façon que de requalifier et d'accepter que c'est un crime ce qui a été commis, parce que là aussi, bah, les délais de la justice aujourd'hui font que ce dossier ne va pas être prioritaire parce qu'il n'y a pas de personnes détenues dans ce dossier, et que entre des arbitrages, entre des dossiers de narcotrafic qu'on criminalise désormais et un dossier comme celui-ci, et bah, ça sera le dernier dossier qu'on pourra traiter. Donc ça va être encore très long.
Et vous, entre-temps, du coup, vous travaillez ce dossier. Comment on fait pour impliquer les trois autres policiers? Comment on fait pour changer la direction, on va dire, de...
Bah pour les impliquer au pénal, ça va être compliqué. Il y a des demandes qui ont été faites à la juge d'instruction. Elle les a rejetées. Ça fera sans doute l'objet de discussions devant la chambre de l'instruction, donc devant la cour d'appel. En réalité, il y a la responsabilité de ces trois policiers, mais il y a la responsabilité de la police là-dedans. Et à ce moment-là, la préfecture de police de Paris, elle se distingue des autres unités de police sur le territoire parce qu'elle autorise et elle encourage, c'était le préfet Lallemand qui avait pris une note en 2020, qui encourageait les courses-poursuites et la lutte contre les refus d'obtempérer. Mais c'était une préfecture isolée à ce moment-là. Et il va falloir qu'elle réponde de ce choix parce que c'est dramatique ce qui s'est passé. Et en réalité, c'était écrit. Quand on lit cette note en 2020, c'est l'histoire de Safia Tou, d'Ilan, qui est racontée dans des termes très administratifs. Vous allez effectivement courser des gamins sur un scooter et vous irez jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est jusqu'au moment où, d'une manière ou d'une autre, ça s'arrête. Et donc, vous allez leur foncer dedans. Ils vont se prendre un mur. Mais dans tous les cas, la police est ici responsable. Et donc, on va engager des procédures contre la préfecture de police, contre l'État, pour qu'elle réponde de sa responsabilité. Parce que c'est aussi une posture très facile. C'est facile pour le ministre à la radio d'aller dire ils n'ont pas bien agi. Mais qui leur a dit d'agir comme ça ? Qui ? Ben, un préfet de police qui, dans l'administration pénitentiaire par le passé, a fait de basses œuvres et les a poursuivis lorsqu'il était préfet à Paris. Donc tout ça est un système, effectivement, qu'il faut dénoncer. Et il faut que dans chaque recoin, on aille chercher la responsabilité parce que ce fonctionnaire répondra devant la justice. Mais c'est sa hiérarchie, ses supérieurs aussi.
Du coup, pas facile, très très long, ça a un coût. Tout ça, Amanda, on en parlait tout à l'heure de tout ce qui a déjà été mis en œuvre. Tu as lancé une cagnotte. Est-ce que tu peux peut-être nous dire à quoi elle va servir, cette cagnotte ?
Bah, au vu de cette décision et que je comprends et que je le vis surtout, hein, pendant ces trois ans, j'ai beaucoup entendu. J'ai été accompagnée par le réseau d'entraide, vérité et justice. Je remercie Fatou Dieng. Parce qu'elle a été d'une aide, d'une écoute. Elle a remplacé ma famille. On a choisi, comme c'est des enfants, d'être peut-être un peu plus discret. Sauf qu'en fait, bah, vous voyez, vous recevez une ordonnance comme ça, je la lis, il y a 25 pages, et en fait, j'en ai encore pour une semaine pour m'en remettre. Parce qu'il faut que je comprenne. C'est limite machiavélique. Vous rentrez dans une dichotomie où des contradictions se font et c'est écrit noir sur blanc, donc c'est assez difficile pour le cerveau humain de faire les liens. Je suis seule, je suis une maman solo. Les enfants, c'est ma mission. Ça a toujours été ma mission. Leurs droits, c'est ma mission. Donc effectivement, la lutte, en fait, elle demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et bah, je n'ai pas les moyens, déjà parce que je suis une femme, il faut dire la vérité. Ilan, par exemple, il a des soucis neurologiques, donc on doit être accompagné d'un ergothérapeute, on doit être accompagné d'un psy-TTC, d'un psychiatre, enfin, de plein de gens. Safia Tou, elle a besoin de kiné, elle a besoin de... Et en fait, bah, quand vous êtes pauvre, que vous êtes avec la CMU, bah, vous n'avez pas forcément droit à certains médecins et surtout à certains spécialistes qui vont faire du travail sur le long terme. Et donc la lutte, effectivement, elle a besoin de mobiliser non seulement financièrement, mais humainement. On a besoin de faire du bruit médiatiquement. On a besoin de montrer à ces enfants que... Ok, la justice, c'est une valeur apparemment, qui doit être rediscuté en société, mais on n'a pas le temps d'attendre. Ces enfants nous regardent. Vous voyez, mon fils, encore aujourd'hui, tous les jours, quand il doit se déplacer pour aller au lycée, il fait 45 minutes, une heure de trajet. On est en plein Paris, mais ça, merci à Felnet et merci Parcoursup. Ben, c'est quoi ? C'est contrôle dès 8 heures du matin. Donc, c'est des traumatismes qu'on doit traiter et faire peut-être en sorte, grâce à vous, grâce à nous tous, peut-être d'avoir une justice populaire, que ces enfants soient reconnus. Un trauma, et tous les thérapeutes pourront vous le dire, un trauma, il peut se guérir une fois qu'on est reconnu en tant que victime. Déjà, c'est un premier pas. Et si rien que nous tous, vous soutenez financièrement, dans nos mobilisations, parce que je vais devoir faire plus, ça va compter, ne serait-ce que pour ces enfants et pour, en vrai, la jeunesse. Arrêtons, on les a complètement abandonnés, ça fait un petit moment qu'on les a abandonnés. Ça commence dès l'école maternelle, on nous stigmatise, les enfants qui bougent un peu trop, bon, bah c'est normal, ils sont racisés, ils n'ont pas la même couleur de peau, ça se passe en plein Paris, c'est pas normal. En tant que parent, je le vois, je milite, on milite pour la fermeture des classes au lieu d'avoir des enfants qui peuvent s'épanouir ou avoir des moyens d'éducation qui aillent vers l'avenir. Au contraire, on régresse et on ne sait que leur dire obéir tout de suite, pas dans 2 secondes, hein. On n'a pas laissé 2 minutes à Safia Toussaïf et Ilan. On ne leur a pas laissé 2 minutes. La lutte, elle est extrêmement longue. On me l'avait dit, je le vis. Mais si financièrement, je n'ai pas les moyens, et si effectivement, même médiatiquement, même humainement, je n'ai pas une équipe avec moi. Alors c'est cool d'être seule, hein. Il n'y a pas de souci, hein, je sais faire. Mais là, j'ai besoin de vous. Merci. Merci beaucoup.
Bonjour Fatou, merci d'être là. Est-ce que tu peux nous resituer, peut-être nous expliquer qui tu es et qu'est-ce qui s'est passé donc avec ton frère Lamine Dieng?
Bonsoir tout le monde et merci beaucoup. Donc je suis Fatou, une des sœurs de Lamine Dieng, qui a été tué par clé d'étranglement et plaquage ventral à Paris dans le 20e arrondissement par plusieurs policiers. Et c'était le 17 juin 2007, à même pas 500 mètres du domicile familial et pas très loin du commissariat aussi. Donc, comme pour toutes les affaires, hein, ils ne disent pas exactement la cause. Donc, on nous balade toujours un peu. Donc, nous, c'était par téléphone 36 heures après les faits. Pourtant, il était sur une moto, enfin, il avait une moto identifiable qui était à son nom. Et il faut savoir que dans le quartier du 20e, tous les jeunes sont identifiables. Voilà. Donc, comme dans tous les quartiers. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont mis 36 heures pour l'identifier. Donc, on a été informés par téléphone. C'était une de mes sœurs qui avait pris le téléphone, qui est un peu plus âgée que Lamine. Donc, ils ne se sont pas souciés à savoir est-ce que cette personne était en capacité d'entendre ce qu'ils allaient annoncer. Et donc, du coup, c'était pour nous dire qu'il a eu un accident sur la voie publique. Voilà. Donc, on s'est tous dit bon, il a dû avoir un accident de moto sans se rendre compte de ce qu'il y avait vraiment derrière. Donc, il fallait que, même avant qu'on ait identifié le corps, il y avait déjà un article dans Le Parisien où c'était marqué « mort dans un fourgon de police ». Et c'était aussi un jour de vote, parce que c'était pendant les législatives, je crois que c'était sous Sarko d'ailleurs. Et les personnes qui allaient justement, parce qu'il y avait une école maternelle pas trop loin, c'était entre à l'angle de la rue Orfila et la rue Bidassoa, donc il y a un hôtel là-bas. Et les personnes qui allaient justement voter ce dimanche, je crois que c'était un dimanche matin d'ailleurs, les gens allaient voter, ils l'ont vu sur le bitume. Donc vers les coups de, des personnes l'ont déjà vu à 6h ou 7h du matin sur le bitume. Et du coup, son corps a été amené à l'Institut médico-légal que vers les alentours de 9h. Et or que ça s'est passé vers 4h et quelques, le décès constaté par un médecin à 5h du matin. Donc, ils ont quand même mis tout ce temps avant de nous informer. Donc, on a été à l'IGS. À l'époque, c'était l'IGS. Donc, maintenant, c'est l'IGPN. On a été là-bas, donc toute la famille, avec les parents aussi, la fratrie. Donc les personnes qui ont été reçues, c'était ses petites sœurs qui avaient reçu l'appel téléphonique, et plus le chef de famille, donc mon père. ils ont été interviewés donc à l'IGS. Et de là, donc, ils ont dit tout ce qu'ils devaient dire, qui était déjà sur leur PV. Et donc, c'était à savoir, est-ce qu'on voulait porter plainte? Donc, on a dit qu'on voulait porter plainte contre toutes les personnes qui étaient mentionnées dans leur PV. Et même ça aussi, pareil, ils voulaient justement nous dissuader de porter plainte contre toutes ces personnes-là. Donc, nous, on est restés sur notre position, on a porté plainte. Les parents, plus on était quatre de la fratrie. Donc, on est sept enfants, donc moins Lamine. Et du coup, 10 ans d'instruction, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu déjà, au bout de 3 jours, classement sans suite. Voilà, disons que c'était une mort naturelle, voilà, donc il fallait aller creuser plus pour savoir ce qu'il en était réellement. Donc on a pu savoir que dès 2008, que c'était une asphyxie mécanique, donc due à l'appui contre le sol, à savoir le plaquage ventral et la clé d'étranglement. Donc voilà, il y a eu ça, 3 jours après l'instruction qui est classée, donc il fallait voilà, porter plainte, qu'il y ait un juge d'instruction qui soit nommé. Donc tout ça pour dire que ça a duré 10 ans d'instruction pour se conclure sur un non-lieu définitif. Donc on a fait appel, on est passé à la cour de cassation. Donc cette cour de cassation, c'est ce qu'on appelle un peu la cour de confirmation, qui est là juste pour confirmer le non-lieu. Parce que sans cette confirmation-là et sans aller là-bas, on ne peut pas poursuivre... pour aller à la Cour européenne, par exemple. Et donc, pour ça aussi, quand on parlait justement de frais, c'est que la lutte et que ces procédures précarisent, à savoir que pour cette Cour de cassation, on devait prendre encore un autre avocat, parce que ce n'est pas tous les avocats qui sont habilités à cette Cour, et que pour nous, il fallait payer presque 8 000 euros, quoi. Donc voilà, 8 000 euros juste pour confirmer un non-lieu. Et donc, de là, après, pour voir si, en fonction de ce qu'on peut supporter... Si on a aussi les moyens financiers pour continuer. Donc nous, à cette époque-là, il n'y avait que la Cour européenne qui était où on pouvait continuer, quoi. Donc cette Cour européenne, pareil, ça a duré, on va dire, 18 mois pour avoir une décision en 2020, en juin 2020, qui annonçait que, voilà, que la France, l'État français était responsable de l'assassinat de Lamine. Pour nous, c'était, on a pu lui rendre sa dignité. Même si voilà, on se rend compte que ce n'est pas du tout une justice exemplaire, donc une justice qui est en lien, qui soit proportionnelle justement à l'acte commis. Donc ce n'était pas du tout le cas, parce que les policiers en question, eux, n'ont jamais été inquiétés. Il y a eu des couples qui se sont formés, il y a eu des promotions. Donc voilà. Et que surtout, parmi ces 8 policiers, ce n'était pas des gardiens de la paix uniques. Ce n'était pas non plus des stagiaires, il y avait des commandants, il y avait un formateur. À savoir qu'à chaque fois que la police tue en groupe, ils sont souvent avec des gradés et des formateurs. Donc, pour cette cour, les mises en cause n'ont pas été condamnées, ils n'ont pas été suspendus, il n'y a rien eu. Donc, ils ont pu continuer leur fonction toujours rattachée à ce commissariat du 20e. L'État a été condamné donc, pour dédommager la famille, mais sans plus. Nous, on aurait préféré que pour cette justice ou cette réparation, que ces techniques soient abandonnées, soient interdites. Parce qu'il y a eu 2 techniques qui ont tué Lamine, la clé d'étranglement et le plaquage ventral, désolé. Et la 3e technique, c'est le pliage. Et c'est ce qui a tué Ali Ziri en 2009, un homme de 67 ans. Et ça n'a pas été interdit. Donc ça continue toujours à être utilisé. On avait aussi, pareil, demandé à ce que les armes qui sont utilisées, même lors des manifs, soient aussi interdites. Ça n'a pas été le cas non plus. Et donc, voilà, pour nous, au niveau de la juridiction française, ça s'est conclu comme ça. Donc, par cette reconnaissance de l'État français, le dédommagement, et après, c'est tout, c'est fini, quoi. Cette Cour européenne, c'est la France qui la compose, c'est l'Italie, voilà, ce sont des pays européens. Et donc, quel pays européen va taper fort sur l'autre pays, étant donné qu'ils commettent tous les mêmes violences, les mêmes assassinats, et que c'est la même chose. Ce qu'on subit aujourd'hui en France, même depuis très longtemps, c'est ce qui est aussi subi par les personnes non blanches majoritairement dans d'autres pays européens. Donc, ils sont tous sur ces mêmes violences ou ces mêmes assassinats systémiques, quoi. Donc, cette Cour européenne, c'est aussi encore en leurre. Donc, pour obtenir justice aujourd'hui en France, il n'y a pas de justice à la hauteur du crime commis ou de la violence commise, quoi. C'est ça, surtout, la difficulté. Et le gros problème là-dedans, c'est qu'on est un peu, comme disait Amanda, on est seul face à ces luttes-là. Parce que dans les premiers instants, il y a beaucoup de monde. Il y a des élus de tous bords, beaucoup de militants, beaucoup de syndicats. Mais après, quand on parle de l'impact de ces violences, c'est sur toute la vie au quotidien. Parce que ce qu'il y a, c'est que la police, elle n'est pas là pour maîtriser, pour protéger. Elle protège la bourgeoisie. Ce n'est pas nous qu'elle protège. Elle a une mission assez spéciale, quoi. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est que surtout, oui, c'est une histoire, c'est l'affaire de tout le monde, quoi. C'est qu'on n'est pas suffisamment solidaire. Même entre personnes non blanches, on n'est pas suffisamment solidaire à partir du moment où c'est la police qui est mise en cause, quoi. Et ça, il faudrait effectivement, c'est que la police a trop de pouvoir. Trop de pouvoir au niveau du budget, trop de pouvoir au niveau des lois qui les protègent. Et les personnes aussi qui laissent passer ces lois-là, désolé de le dire, ce sont les élus aussi. Ce n'est pas nous qui sommes à l'Assemblée nationale pour justement laisser passer ces lois. Ce sont eux, parce qu'ils savent très bien que leur famille n'est pas du tout inquiétée par rapport à ça. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Qu'il faut comprendre aussi qu'il y avait justement une police qui était là pour les Maghrébins, comme aussi une police qui est là pour les Noirs, qui était là pour les Noirs et qu'il y a encore. Donc c'est tout ça qu'il faut entendre. Et voilà, la police ne nous aime pas, il faut le savoir, il faut l'intégrer en nous. Et on ne les aime pas non plus, c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Voilà. Parce que des gens qui sont censés protéger des enfants, qui sont là à justement venir nuire à leur vie, et que des gens qui sont soi-disant là pour nous protéger, ce n'est pas le cas. Je ne vais pas donner ma vie à une personne qui est capable d'assassiner. Ce n'est pas possible, quoi. Donc, c'est à nous, justement, de pouvoir faire le nécessaire. Le nécessaire, c'est effectivement que tout le monde prenne conscience de ça. Aujourd'hui, ça a été les enfants, ça a été El Hassen, paix à son âme. Et il y en a encore d'autres. C'est comme si, limite, on était là à attendre, à savoir qui sera la prochaine victime. Et ça, c'est plus possible, quoi. Parce que nos enfants, ou nous-mêmes, ou nos petits-enfants, qu'on soit dans la vie et pas dans la survie. Mais là, aujourd'hui, oui, on est plus dans la survie que dans la vie. Si ça ne tenait qu'à moi, ce serait d'abolir la police, tout simplement. Voilà, c'est tout, quoi. Et à un moment donné, je crois que c'est bon. À un moment donné, il faut le dire, il faut qu'on se dise les choses et que surtout, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que les partis politiques ou d'autres, il y en a quelques-uns qui sont moins frileux, qui commencent à dire oui, il faut désarmer. Oui, il faut désarmer. Il faut désarmer la police et il faut surtout l'abandonner, quoi. Parce que c'est vrai que oui, on dit ça, ça fait peur. Parce qu'on se dit, même pour telle ou telle chose, on a besoin de la police. Et que c'est nous qui pensons qu'on a besoin de la police. Et on leur donne ces pouvoirs-là de faire n'importe quoi de nos vies. Et oui, il faut se soulever, quoi, tout simplement. On en parle depuis longtemps. On a des discours comme ça. On a des événements comme ça. Mais finalement, chacun rentre chez soi et c'est fini. C'est ça surtout, quoi. Donc c'est comme si, limite, on n'avait pas les moyens de s'en sortir. C'est juste qu'ils ont créé une terreur et qu'on est en plein dedans. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, ben non, cette terreur, ben c'est notre vie qui est en jeu. Donc oui, il faut aller plus loin que, comme on dit, que leur loi, leur mur, leurs armes. Et ça, ce plus loin, c'est ensemble. Parce que ensemble, sinon, on n'ira pas loin, tout simplement, quoi.
Merci beaucoup, Fatou, pour ce mot. Pour tout ça.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.